Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monilfe Bosso. Il est journaliste, il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale, une radio panafricaine. Bonjour Monilfe Bosso.
Bonjour Guy Maté, bonjour chers auditeurs de la radio Okapi.
Maître Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central. Bonjour Maître Annie Massengou.
Bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis Mexico, capitale du Mexique, Georges Bergezan, il est chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles en Belgique. Il suit la situation surtout sécuritaire en RDC depuis 25 ans. Bonjour Georges Bergezan.
Oui, bonjour Monsieur Maté, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Monilfe Bosso. Il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale, une radio panafricaine. Maître Annie Massengou, il est membre de la société civile du Congo central et en ligne depuis Mexico, capitale du Mexique. Georges Bergezan, il est chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles en Belgique. Il suit la situation surtout sécuritaire en RDC depuis 25 ans. Au menu de cette émission, le M23 continue de gagner du terrain malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche 4 août et cela pose la question des obstacles à la sortie de cette crise. Divergence au sein de l'Union Sacrée au sujet des candidats devant représenter cette plateforme dans les bureaux définitifs du Sénat. Et enfin, les collectifs des jeunes leaders des Mwanda au Congo central veulent plus d'éclairage sur l'utilisation des 10 millions de dollars américains de redevances pétrolières. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du verdict prononcé ce jeudi dans l'affaire Corneille Nangaa et consorts. En effet, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'alliance Fleuve Congo AFC et les principaux leaders du M23, viennent d'être reconnus coupables et condamnés à mort par la cour militaire de Kinshasa Gombe. La justice militaire a également ordonné l'arrestation immédiate de Nangaa et la confiscation de ses biens. Le verdict a été rendu ce jeudi 8 août en présence de Constant Mutamba, ministre de la Justice, qui estime que c'est un motif de joie et de fierté pour la justice militaire qui a su gérer ses prévenus en un temps record. Corneille Nangaa et certains de ses alliés du M23, 26 au total, étaient jugés pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. La justice a accordé 5 jours aux condamnés pour interjeter appel. Monilfe Bosso, tous les 26 prévenus condamnés à la peine de mort pour crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison, comment réagissez à ces verdicts?
Oui, c'est une bonne chose, à mon sens, je dois dire ça, c'est une bonne chose. Je dirais même, je ne sais pas si je peux me tromper, oui, mais c'est une grande première depuis que nous connaissons cette affaire-là où on tue nos compatriotes à l'est de notre pays. Alors moi, je sais que je voudrais voir ici, je souhaiterais que ça ça soit ainsi, c'est de qu'on ne se limite pas simplement à cette condamnation. Il faut aller au-delà de la condamnation parce que pour eux, là-bas, ils s'amusent, ils disent que mais ils vont nous attraper ou qu'est-ce qu'ils feront de nous. Mais je pense que nous faisant partie de la société des nations, nécessairement, il faudrait qu'on prenne langue avec tous ces pays où ces gens ont l'habitude de se mouvoir librement. C'est-à-dire, on exige les mandats internationaux contre tous ces gens pour que, en tout cas, ce qu'on a dit, qu'on les arrête dans tous les pays où ils vont se retrouver et qu'on les extrade dans notre pays pour venir subir cette condamnation. C'est ça ce que moi je souhaiterais. Donc, je trouve que c'est une bonne chose, mais qu'on ne se limite pas non simplement avec les Nanga et sa bande, mais il faut aller aussi vers tous ces groupes armés qui pullulent à travers le pays. Il faut commencer à cibler leurs chefs pour les condamner et aussi procéder de la même manière avec le mandat international pour que on les arrête et qu'on les amène dans nos juridictions, tant civiles que militaires, justement pour les juger. Et les condamner aussi pour qu'ils soient en mesure aussi de purger leur peine par rapport à ce qui a été décidé au niveau de la justice. Voilà, c'est un peu ce que moi je peux dire.
Merci, Maître Annie Massengou, vous êtes avocate. Ça pourrait être quoi la symbolique par rapport à toutes ces condamnations?
Moi, je voudrais ici d'abord applaudir l'initiative d'engager des poursuites judiciaires et arriver jusqu'à la condamnation de ceux qui sont en train de polluer la vie des multiples Congolais. Mais je reste quand même inquiète sur un certain nombre de faits, dont notamment la mise en exécution de cette décision qui vient de tomber, parce que pendant que à Kinshasa, Ndolo, le procès était ouvert et que on arrive à une condamnation, ces personnes ciblées sont en République démocratique du Congo et en train de gagner de terrain. Il n'y a pas si longtemps, et tout récemment, là, on parlait du cessez-le-feu, mais pendant ce cessez-le-feu-là, ils ont encore gagné des territoires. Ces mêmes personnes-là qu'on est en train de condamner à Kinshasa. Ça remet un peu en question le fonctionnement. On se demande quelle sera la finalité, parce que ces gens-là se montrent plus forts, plus têtus que l'État congolais. Malgré que vous faites votre procédure ici, nous, de l'autre côté, nous continuons à gagner du terrain. Alors, je crois qu'il faut aller un peu plus loin, envisager autre chose. Bon, ils ne sont pas à l'extérieur du pays, ils sont ici au Congo, ils œuvrent ici au Congo. Il faut voir maintenant quel mécanisme mettre en place pour les arrêter, pour rendre plus forte la décision qui a été prise. Et le jour où on mettra la main sur Nanga et toute son équipe, là nous allons applaudir parce que ça sera un soulagement pour la population.
Merci beaucoup, Georges Bergezan. Justement, comme se demande Madame Annie Massengou, c'est quoi la finalité de ces procès? Comment, à votre avis, faut-il faire pour qu'une telle démarche soit efficace, qu'une telle démarche atteigne ses objectifs? Parce qu'on se rappelle que dans un passé récent, il y a eu également des sanctions, n'est-ce pas, prononcées contre les personnes qui ont fait partie des différents mouvements rebelles. Mais des sanctions qui ont été annulées pour, n'est-ce pas, des impératifs politiques à travers certains accords politiques. Comment faire pour que ce genre de démarche puisse être effectivement efficace?
Oui, concernant la décision de la justice congolaise, je n'ai pas beaucoup de commentaires à ajouter, mais je constate simplement que M. Nanga continue à vivre paisiblement. Sur le terrain, le M23 continue à progresser au Kivu et les populations continuent à fuir. Donc ce jugement n'a rien résolu. Voilà. Maintenant, je pense que la question, c'est donc la résolution de cette très grave crise au nord Kivu. Donc comment procéder? Donc effectivement, il faudra bien, je crois, à un moment ou à un autre négocier, et là, peut-être que ces jugements, ces condamnations à mort pourraient être revus. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Merci, merci. On prend une petite pause avec méditation d'Eroxy Chimpaka dans l'orchestre Chopster. On revient juste après. Méditation, cette chanson de Roxy Chimpaka dans l'orchestre Chopster. On revient à l'actualité de cette semaine. Le cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda doit être permanent. C'est l'essentiel du message de la visite à Luanda, en Angola, du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Dans une dépêche de l'agence congolaise de presse, Cyril Ramaphosa dit être allé remercier son homologue João Lourenço pour les efforts qui ont été déployés en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a eu lieu jeudi. Pendant ce temps, l'enclave des pêches de Nyakakoma en territoire de Rutshuru est passée à son tour sous occupation des rebelles du M23. C'était dans la matinée de mercredi après un échange de tirs de courte durée contre la force marine congolaise soutenue par des combattants des groupes armés locaux. Tout cela arrive pendant que le cessez-le-feu est en vigueur depuis le 4 août. Georges Bergesan, vous êtes chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles en Belgique. Vous suivez la situation surtout sécuritaire en RDC depuis 25 ans. Vous avez souhaité analyser cette actualité du Nord Kivu en parlant, n'est-ce pas, de l'avancée du M23 en dépit du cessez-le-feu et évoquer ce qui peut être considéré, selon vous, comme obstacle à la sortie de cette crise de l'Est de la RDC. On vous écoute.
Oui, bien entendu, le M23 ne, visiblement ne respecte pas du tout ce cessez-le-feu et en profite pour avancer. Donc, durant la semaine écoulée, il y a eu une forte progression du M23 vers le nord-est, le long de la frontière ougandaise et jusqu'au lac Édouard. Pourquoi le M23 ne respecte pas le cessez-le-feu? Il prétend ne pas être impliqué par ce cessez-le-feu qui a été conclu par le Rwanda et la RDC sous les auspices de la présidence angolaise. Donc ben, ça c'est l'éternel problème. Donc d'une part, Kinshasa refuse de négocier avec le M23 qu'il considère comme terroriste, bien que des négociations aient eu lieu, des négociations secrètes ont eu lieu en 2020 et 2021 sans succès malheureusement. Donc d'une part, Kinshasa ne négocie pas avec le M23. D'autre part, le Rwanda, comme l'Ouganda d'ailleurs, ne dissimulent ou refusent de reconnaître leur soutien direct au M23. Donc, ils ne peuvent pas s'engager à cesser leur soutien s'ils ne le reconnaissent pas. Donc, en conclusion, les cessez-le-feu conclus au niveau international entre le Rwanda et la RDC ne tiennent pas. Et j'ajouterais que un gros obstacle aussi à non seulement à un cessez-le-feu durable, mais à une résolution durable des problèmes entre le Rwanda et la RDC, ce serait que les partenaires occidentaux du Rwanda ainsi que de l'Ouganda fassent davantage de pression pour que ces deux pays cessent leurs ingérences récurrentes voire permanentes dans l'est de la RDC. Moi, ce sont les principaux obstacles à un règlement de la question sous-jacente à la conquête du M23 ou Kivu.
Alors, parce que vous estimez que, Monsieur Georges Belguezan, parce que vous estimez que les positions figées des deux parties constituent l'obstacle à la sortie de cette crise dans l'est du pays, et donc vous pourriez, n'est-ce pas, recommander aux belligérants de pouvoir se faire mutuellement des concessions afin que on puisse, n'est-ce pas, mettre en place des mécanismes pour faciliter la résolution de cette crise?
Oui, des concessions éventuellement, mais dans le respect entier de la souveraineté congolaise. À mon avis, il faudra un jour ou l'autre négocier avec les responsables du M23 et régler le problème de ces combattants qui sont en errance depuis plus de 10 ans. Et je vous rappelle aussi que le M23 a ressurgi en 2021-2022, mais il avait déjà existé en 2013. 2012-2013, encore auparavant, il y avait eu la rébellion du CNDP. Et si on remonte encore plus dans le temps, il y avait eu la prise de Bukavu par le général Nkunda, et encore avant la rébellion du RCD Goma sous occupation rwandaise, etc. Donc c'est un problème récurrent, il faut l'affronter à bras le corps. Donc évidemment, le Rwanda doit être impliqué, mais également ses combattants du M23, dont certains ont en nombre, en tout cas, ont la nationalité congolaise. Mais le problème est extrêmement complexe, mais il n'y aura pas d'autre issue que négocier. On a bien vu que sur le terrain, ne fût-ce que depuis le début de l'année, le M23 a quasiment doublé le territoire sous son contrôle. Il a fortement avancé au nord, que ce soit Outembo ou vers le lac Édouard. Il a progressé vers le sud, il a pratiquement un pied ou plus qu'un pied au sud Kivu. Donc,
à votre avis, la pression
militaire des FARDC et de ses alliés ne suffit pas du tout à contenir l'avancée du M23 et de l'armée rwandaise.
Justement, vous ne pensez pas que Kinshasa soit embarrassé par cette situation parce que d'un côté, la rébellion est en train de gagner du terrain? Pendant ce temps-là, on lui demande de parler, n'est-ce pas, avec les Rwandais et aussi avec la rébellion. Est-ce que le moment serait indiqué pour que Kinshasa puisse parler avec la rébellion quand on sait que Kinshasa est dans une position de faiblesse sur le terrain?
Oui, d'une part, il y a la faiblesse sur le terrain. D'autre part, il y a les porte-parole de la rébellion sont considérés comme des terroristes. Et ils ont été condamnés à mort, justement. Donc, avec qui parler? Donc, c'est pour ça que les négociations ont lieu entre Kinshasa et Kigali. Mais Kigali se retranche à chaque fois en disant oui, mais c'est pas nous, la rupture du cessez-le-feu, c'est pas nous, c'est le M23. Et voilà, donc il faut les impliquer, les contraindre à un moment ou à un autre.
Merci, merci. Monulfe Bosso, vous êtes journaliste et vous êtes correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, ligne radio panafricaine. S'il y a des obstacles, n'est-ce pas, à la sortie des crises comme viennent de les relever Georges Bergesan, ce ne serait pas, j'avais posé la même question la semaine passée, ce ne serait pas parce que, à la clé, aucune sanction n'a été prévue, n'est-ce pas, à l'endroit de tous les récalcitrants par rapport à cesser le feu?
Oui, mon cher Guy, je pense bien qu'il faut, moi je vois ça, le fait que ce soit le Rwanda et la RDC qui signent d'abord cesser le feu, c'est une façon de responsabiliser le Rwanda, qui se trouve être le véritable agresseur de la République démocratique du Congo. Alors le Rwanda, donc, vient à visage ouvert, c'est-à-dire par les M23 interposés. Ça, c'est une victoire, en tout cas, je dirais, diplomatique de la part de la République démocratique du Congo. Mais moi, je pense que il faut maintenant imposer au Rwanda de demander à ses supplétifs de ne plus attaquer et dire que si vous attaquez, ce n'est pas les M23 qui a attaqué, mais c'est vous, le Rwandais, qui ne respectez pas. Parce que le fait que vous avez accepté de signer le cessez-le-feu, c'est que vous êtes sur le territoire congolais. Et tous ceux qui agissent là, AFC, M23, tout ça là, ce sont les supplétifs du Rwanda. Donc on doit commencer par là. Et s'il y a des sanctions, telles que vous l'avez dit, il faut nécessairement qu'on sanctionne plutôt le Rwanda. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas sanctionner le Rwanda. C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On s'est limité simplement à habiller ça en disant, par exemple, nous condamnons, il faut respecter ceci, cela. Mais c'est trop de dire ça. On a dit ça plusieurs fois. Mais quand on voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait nécessairement qu'on arrive à sanctionner. C'est le cas qu'on a fait avec la Russie, par exemple, par rapport à l'Ukraine. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Je l'ai dit, je pense bien que dans l'une de vos émissions, que les traitements qu'on réserve à la Russie n'est pas le même traitement qu'on réserve au Rwanda. Pourquoi toujours agir de cette manière-là? Une sorte d'hypocrisie de la communauté internationale. S'il faut sanctionner, qu'on sanctionne directement le Rwanda, qui est responsable de tout ce qui nous arrive à l'est du pays. C'est comme si nos morts n'ont pas de valeur par rapport aux morts ukrainiens. Vous voyez un peu ce que ça fait, et ça nous touche vraiment du fond du cœur. Même les Nations Unies, à chaque fois qu'on cherche à condamner, on met et l'agressé et l'agresseur sur le même pied d'égalité, en disant par exemple que non, mais le Rwanda doit quitter, mais la RDC aussi doit cesser de pouvoir entretenir les FDLR, soutenir les FDLR pour des actions. Mais quand est-ce que ces FDLR sont déjà rentrés sur le territoire rwandais? Quelle est la partie que les FDLR là ont déjà occupée par rapport à ce que le Rwanda, qui a même déployé tout un missile comme ça? Voilà, c'est un peu ça.
Merci.
Donc, il faut qu'on cesse avec cette hypocrisie-là.
Merci, Madame Annie Matengu. Vous êtes membre de la société civile du Congo central. À quoi peut-on s'attendre si ce cessez-le-feu ne permet pas d'obtenir la fin des hostilités entre belligérants?
Bon, en fait, c'est quand même embarrassant, cette situation. Parce que je ne sais pas prédire ce qui va arriver si on n'arrivait pas à obtenir cessez-le-feu-là ou les négociations. Mais je déplore quand même cette situation dans le sens que c'est à chaque fois, c'est comme si c'était une politique mise en place pour que chaque fois quand il y a un semblant une mesure où on se convient qui est cesser les feux, et d'un côté on est sincère, de l'autre côté on est hypocrite, et puis on profite de cette situation là pour gagner encore des territoires, tuer sans pitié les Congolais, violer les femmes et tout et tout. Les femmes qui sont violées là sont les femmes, sont des êtres humains comme les européennes, comme les américaines, comme les femmes partout ailleurs. Mais je me demande pourquoi il n'y a pas de sensibilité lorsque les femmes de la RDC vivent ces atrocités que l'Occident ne pourrait pas tolérer sur son territoire. Donc, les problèmes de cesser le feu, moi je trouve ça comme une stratégie pour affaiblir le côté congolais afin de favoriser l'autre côté. Et la grande question que je pose toujours, c'est qui alimente ces M23 en armes? Qui les alimente en armes? C'est la grande question. Et si on arrive à répondre à cette question-là, nous saurons qui est vraiment le véritable problème pour la RDC. Moi, je me dis que même le Rwanda, là, n'est qu'un pion qu'on est en train de manipuler pour déstabiliser la RDC, la guerre de la RDC et ailleurs. Mais ceux qui sont en train de vouloir piller les richesses ou qui veulent se servir des richesses de la RDC, ils n'ont qu'à venir négocier avec le gouvernement congolais pour voir dans quelle mesure ils peuvent continuer à prendre la richesse de la RDC plutôt que tuer, supprimer les vies humaines. La Déclaration universelle des droits de l'homme protège tout être humain. Mais est-ce que les Congolais et les Congolaises ont aussi droit d'être protégés par cette Déclaration des droits de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas en RDC, mais on veut l'appliquer en Ukraine? Il faut sécuriser tout le monde. Si on se dit qu'on est les maîtres du monde, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tout ça, même avec leurs multinationales qui viennent ici, doivent considérer l'être humain au même pied d'égalité. Il n'y a pas d'être humain en Ukraine plus que l'être humain au Congo.
Merci Madame Annie Massengou. Chères auditrices et chers auditeurs, l'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On l'appelait la voix limpide du Zaïre, Else Pongolov, dont l'anniversaire de naissance sera commémoré le 27 août prochain. Elle était née le 27 août 1956 à Boma au Congo central. Elle nous a quittés le 15 janvier 1990 à Kinshasa. Pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques, Ndaya, une composition de Mayaula Mayoni. Ndaya, c'est la chanson qui a fait connaître Pongolov au public avec l'encadrement du saxophoniste Impompoloai. On va donc écouter Ndaya et on revient juste après.
Thank you.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du verdict prononcé jeudi dans l'affaire Corneille Nanga et consorts. Nous avons également analysé les obstacles à la sortie de la crise dans l'est de la RDC. Participe à cette émission, Monil Febosso, il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale, une radio panafricaine. Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis Mexico, capitale du Mexique, Georges Berguezan, il est chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles, en Belgique. Il suit la situation, surtout sécuritaire, en RDC depuis 25 ans. L'élection des membres du bureau définitif du Sénat, la séance plénière initialement prévue pour ce vendredi consacrée à l'audition des messages de la campagne électorale des candidats, est reportée à une date ultérieure. Dans un communiqué signé par le premier secrétaire rapporteur du Sénat, ce nouveau report est dû aux contraintes sécuritaires et logistiques. Alors qu'il va Kankonde a annoncé la publication dans les prochaines heures d'un calendrier électoral réaménagé, Augustin Kabuya a convoqué le présidium de l'Union Sacrée pour finalisation du ticket de l'Union Sacrée aux différents postes du Sénat. Monif Obosso, vous avez souhaité nous parler des divergences au sein de l'Union Sacrée au sujet des candidats devant représenter cette plateforme dans les bureaux définitifs du Sénat. On vous écoute.
Oui, Guy, vraiment, moi je pensais que les sages, c'est-à-dire les sénateurs, pouvaient faire différemment des députés. Vous savez ce qu'il y a eu avec les députés, mais par la suite ils se sont ressaisis. Mais par contre, les spectacles qu'on nous a livrés, c'était vraiment déshonorant. Je vous dis, comment comprendre que les sages ne pouvaient pas s'organiser à leur manière? Et puis, ceux qui gèrent l'Union Sacrée, pourquoi avoir laissé une situation pourrir juste, et que vers la fin, on s'est ressaisisse pour maintenant convoquer. Donc, on a senti une absence de coordination. Coordination de la part de l'Union Sacrée. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Pléthore des candidatures. Or, ils ont bouclé les postes. C'est-à-dire, un seul candidat pour un poste. Donc, ça a réussi à l'Assemblée nationale. Et s'ils ont trouvé que c'était le meilleur procédé, il fallait simplement dupliquer la même chose au niveau du Sénat. Et c'était si simple. Mais il faut voir combien il y a des gens qui ne sont même pas dans cette course, qui sont intervenus justement pour empêcher certains candidats. Hein? Pour eux, ils trouvent que non, tel ne peut pas être là, il faut telle personne. On a supputé beaucoup de choses parce que nous voulons que ça soit tel, parce que c'est notre pouvoir, parce qu'il y a... Non, nous sommes des Bantous, s'il vous plaît. Nous sommes des Bantous, si je prends cet aspect-là des choses. Nous sommes des Bantous, quelqu'un qui était malade, et quand il va aux soins, il faut pas dire que non, nous prenons telle disposition au cas où. Non. C'est comme on dit en lingala, et pas nabiso ba bantu, ba koki ko ba souhaiter mabé. Donc c'est ça ce qu'il faut. Il fallait pas qu'on vive ça.
Et justement, Monil Fobosso, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'enjeu de cette divergence au sein de l'Union Sacrée et le contrôle du pouvoir, parce que on rappelle chaque fois que le président du Sénat est le dauphin constitutionnel du chef de l'État.
Ils oublient, c'est ceux qui disent ça, ils oublient que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a beaucoup de paramètres qui jouent pour la prise de pouvoir. Je ne voudrais pas inciter quelque chose antidémocratique ici, ils le savent très bien. Donc il ne faut pas dire des choses pareilles. Moi je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de penser de cette manière-là. Il ne faudrait pas que le chef qui est là, celui qui vient après, il est là s'il y a quelque chose qui survient, mais c'est, la loi dit qu'il ne va pas rester éternellement au pouvoir. C'est au bout de, je ne sais pas moi, 3 mois, il doit organiser les élections. Pourquoi les gens trouvent que non, il faudrait. Si on n'a pas l'esprit de la triche dans sa tête, je pense bien qu'on va laisser quelqu'un d'autre qui soit simplement congolais, qui va remplacer les chefs de l'État, et c'est un partenaire de l'Union Sacrée qui doit être là. Et on dit, bon voilà, les élections, c'est dans 3 mois. 3 mois, on organise les élections. Hein? Peut-être qu'on dit, bon monsieur, comme vous êtes là, si la loi dit que nous ne pouvons pas vous représenter, parce que vous êtes là, vous jouez à une transition, on laisse le monsieur. Et les autres là vont poser les candidatures. S'ils gagnent, ils gagnent les élections. Mais pourquoi on doit dire que non, il faut boucler, il faut faire ceci, il faut faire cela? Non. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, pas vraiment africain, je dois vous dire. Et heureusement, heureusement, comme vous l'avez dit si bien, qu'il y a un communiqué qui, après tout, a appelé ces gens-là, ces gens qui ne se sont pas attendus dans, à un poste et autant de candidats, ici, c'est là, alors que c'est leur mode opérandi, c'était que pour chaque poste, il faut un candidat de l'Union sacrée, d'autant plus que sur les 7, ils ont 6, et puis il faut réserver un poste à l'opposition. C'est ça, ils se sont ressaisis, et je suis sûr et certain qu'ils sortiront avec un nom pour chaque poste, et l'affaire sera terminée. Qu'on cesse de penser que le pouvoir là, c'est notre pouvoir, il faut ceci, il faut cela. Non, tout Congolais qui a la capacité, et qui s'il est partenaire à vous, vous le laissez, il va travailler juste pour les Congos. C'est les Congos qui gagnent. Je pense bien que ce soir, on aura les tickets, effectivement, des l'Union sacrée. Voilà, c'est ça qui m'a poussé qu'il fallait parler de cela. Mais c'est comme si Dieu était avec nous. Lorsque nous proposions ce sujet, alors eux, ils se sont ressaisis. J'ai dit bravo et j'espère qu'ils vont faire du bon travail pour l'intérêt du Congo. Et que c'est le Congo qui doit gagner, pas des individus.
Merci, Madame Annie Massengou. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer, comme on le disait Monif Bosso, le fait que, contrairement au bureau définitif de l'Assemblée nationale, où l'Union sacrée est parvenue à se mettre d'accord sur un ticket unique, cette fois-ci, pour le bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée ne parvient pas à dégager un consensus. Comment vous pouvez expliquer cela?
Bon, si j'essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, c'est que au sein de l'Union sacrée, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. C'est que tout le monde, c'est ça, c'est ma conclusion, c'est que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. C'est pourquoi il y a des divergences. Celui-ci veut être là au détriment de l'autre, l'autre veut être là au détriment de celui-ci. Donc, ce manque de coordination là, ça laisse à désirer. Et une coalition si grande telle que l'Union sacrée ne peut pas offrir un tel spectacle à la communauté, parce qu'on ne nous regarde pas qu'ici au Congo, on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Et l'Union sacrée, c'est la coalition qui est au pouvoir. Offrir un tel spectacle démontre à suffisance qu'on n'est pas là pour l'intérêt général. On est là pour sa propre poche. Et pourtant, il faut apprendre maintenant à changer les choses, à regarder les choses différemment. Parce que plus nous regardons à notre propre intérêt, nous regardons à notre propre poche, nous regardons sur, juste nous sommes concentrés sur notre petite famille, nous voulons l'aisance de notre petite famille, plus nous sommes en train de mettre en danger l'intérêt de la nation. Et c'est ainsi que vous remarquerez que facilement les Congolais, ils peuvent accepter, ils acceptent d'empocher de l'argent et puis de sacrifier son pays. Ce qui n'est pas très correct. Je crois qu'il faudrait, si bien que on s'est ressaisi en retard, il fallait précéder les événements. Connaissant tout ce qui se passe, comment les gens se comportent, il fallait agir en amont, en organisant les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas ce genre de spectacle qu'on a offert. Là, ça réduit sérieusement la valeur ou la confiance que la population pourrait avoir dans l'Union sacrée. Ils sont juste en train de nous montrer qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils sont au pouvoir. Nous, population, nous regardons, nous comprenons que voilà, au lieu de lutter, il y a la guerre là-bas, il faut s'entendre, il faut coordonner les choses pour voir comment mettre un terme à cette guerre là-bas. Les gens se battent pour le pouvoir, pour être à un tel poste, à un tel poste. Vous êtes d'une même coalition. Pourquoi vous devez vous battre? Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, que les gens de l'Union sacrée s'arrêtent et qu'ils s'interrogent et qu'ils organisent les choses autrement au lieu d'offrir la honte sur l'Union sacrée.
Merci. Merci, Georges Bergaison. Et comment vous analysez cette divergence au sein de l'Union sacrée au sujet de la mise en place du bureau définitif du Sénat?
Mais disons que moi, je me limiterais, vu de l'extérieur, à exprimer certainement que ça fait un peu désordre, ces dissensions au sein du camp gouvernemental. Et si on ajoute les incidents liés à cette force du progrès, les affrontements au sein de cette, je sais pas, de milice ou de militants, tout ça, ça désoriente un peu le spectateur extérieur. Donc on se demande, quelques mois après les élections, où va la majorité gouvernementale. Enfin, moi, je me limite simplement à dire ça.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Dancing Queen des ABBA et on revient juste après. Je rappelle que nous avons dans cette émission Monif Bosso, il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale, une radio panafricaine. Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central et en ligne depuis Mexico, capitale du Mexique. Georges Berguezan, il est chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles en Belgique. Il suit la situation surtout sécuritaire en RDC depuis 25 ans. Le collectif des jeunes leaders de Moanda au Congo central a été en justice au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La commission de gestion des fonds de Moanda, CGFM en sigle, mise en place pour gérer les fonds de 10 millions de dollars américains issus de la redevance pétrolière et destinés à la réalisation des projets sociaux à Moanda. Selon ces jeunes, depuis que ces fonds ont été mis à sa disposition en 2021, rien de concret n'est réalisé à ces jours sur le terrain. Ces jeunes leaders accusent cette commission d'avoir détourné 1 million de dollars américains alloués au financement des structures des jeunes et des femmes, mais aussi les détournements de plusieurs autres millions destinés au financement des projets à impact visible, dont les travaux d'électrification de la cité de Moanda. Maître Annie Massengou, vous avez opté pour ce sujet. On vous écoute.
Merci beaucoup. Ce sujet m'a beaucoup intéressé parce que en le lisant et en suivant ce qui se passe sur le terrain, je ne peux que féliciter ces jeunes qui font réellement un contrôle citoyen. Parce que les Congolais, nous sommes devenus un peu trop laxistes. Il se passe tellement de choses que nous ne savons pas faire le suivi et contrôler. Par exemple, lorsque un gouverneur vient avec son projet de société, ou même quand le chef de l'État vient avec son projet de société avant les élections et qu'il le présente, et nous n'avons pas la culture de prendre tout ce qui est dit et de commencer à suivre. Suivre, ça ne veut pas dire qu'on fait la police pour arrêter qui que ce soit, mais on suit pour rappeler à la personne qui gère que ici vous aviez promis de faire tel, de réaliser tel projet, mais jusque-là vous n'avez encore rien fait. En ce moment-là, ça réveille celui qui gouverne à pouvoir réaliser et à savoir qu'il y a les yeux de la population bénéficiaire de ce projet-là qui veille sur sa façon de gouverner. Et ces genres de comportements se perpétuent où il y a de l'argent qui sort pour être affecté à tel exercice, mais ceux qui doivent exécuter la mission détournent cet argent-là et l'affectent à autre chose ou à leur propre ventre. Ils vont s'acheter des maisons, ils vont s'acheter des véhicules, ils vont se multiplier, je sais pas, des concubines. On achète des véhicules. Donc, ça se limite qu'à ça. Alors que si on mettait en exécution le projet pour lequel les fonds ont été décaissés, ce pays ne serait pas à l'état où il est. Il est en train de dégrader. Si vous arrivez à Mwanda, présentement d'ailleurs je suis à Mwanda, mais Mwanda qui produit assez de cette manière-là, Mwanda c'est pratiquement un village. On ne peut pas comprendre que le fils du pays à qui une responsabilité a été confiée, cette commission-là, elle est composée des Congolais, mais que ces Congolais se plaisent à prendre l'argent et à affecter à autre chose qu'au projet pour lequel l'argent a été décaissé. J'encourage et je souhaiterais que toute la population se réveille de cette manière-là et j'encourage les jeunes de Mwanda à aller jusqu'au bout. Et aussi la justice doit établir des responsabilités. Qui a fait quoi, qui a pris quoi et sanctionner sévèrement. C'est quand il n'y a pas de sanctions que les gens continuent, persévèrent dans le mal. Aujourd'hui, là, on dit ici, chez nous, au Congo central, on dit 6 mai Balouka 9. C'est-à-dire que ce qui est mal devient normal. Ce qui est normal devient mal. Quand vous faites quelque chose pour appuyer le développement de votre coin, il y a toujours ce langage-là qui vient, qui dit, est-ce que c'est Yonde Rubonisamboko? Vous voyez? Des langages de nature à décourager, un langage des voleurs, des détourneurs. Et donc, ça, il ne faut pas qu'on laisse ça passer comme ça. Il faudrait que la justice fasse correctement son travail, n'est pas se laisser embobiner, parce que maintenant, il y a une habitude, hein. Quand on a déjà détourné comme ça, on va juste donner ceci, cela à certaines personnes qui doivent rendre la justice. Et puis finalement, l'affaire est tue. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faudrait que les choses changent. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'en avons pas deux. Lorsque nous sommes en train de détruire notre propre pays, nous pensons que qui viendra le reconstruire. Merci. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aborde cette question.
Merci beaucoup, Monif Bosso. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre des cas de détournement d'argent de l'État dans ces pays. Comment vous comprenez ce phénomène?
Mon frère, moi je ne sais pas si je qualifie ça d'un problème sérieux de conscience. Ceux qui dirigent et qui sont dans ces sales draps-là, ce sont des gens qui, pour la plupart des cas, sont des voleurs. Des voleurs qu'on a mis à la tête de ces institutions. Des voleurs qu'on a mis pour... parce que on a toujours l'habitude de dire, non, ça c'est les détournements, il a détourné. Mais quand c'est le petit peuple qui vole là, ce sont des voleurs. Eux aussi sont des voleurs en tout cas hors pair. C'est, aujourd'hui, les millions en RDC ne représentent plus grand-chose. Aujourd'hui, quand on détourne des millions, parce que les gens sont en train de faire des, ce que j'appelle des courses effrénées des biens matériels, qui ne vont amener nulle part. Sinon, dans leur cercueil, ils partiront même avec des habits qu'eux-mêmes n'ont pas peut-être achetés, que ça sera choisi par ceux-là qui vont rester. Mais pourquoi ça? On attend à gauche 300 millions volatilisés, 500 ici, autant. Mais d'autres pays là, nous on est de la presse. Quand on arrive dans des séminaires qui regroupent un peu le journalisme, on dit mais tous ces millions-là, pourquoi vous ne mettrez pas ça à contribution pour construire votre pays? Hein? C'est étonnant. Moi je viens de Moanda, il y a de cela 48 heures. Parce que j'ai vu là, je me suis posé la question, mais oh là là. Mais on a toujours dit qu'ici on exploite du pétrole. Mais vous savez qu'à Moanda, il n'y a qu'une seule avenue que j'ai vue, à moins que je n'ai pas pu aller partout. Une seule avenue qui est macadamisée. Une seule. Et quand vous voyez les maisons là-bas, mais non. La dame qui vient de parler, maître, qui vient de parler tout à l'heure, mais non, elle a pleinement raison. C'est un grand village, Moanda. Moanda, c'est un grand village. Alors que Moanda a des richesses, les gens viennent, ils tirent les richesses de Moanda pour aller avec ailleurs. Mais on restitue à Moanda, ne fût-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être pour la première fois que j'apprends qu'on a disponibilisé pour ces territoires 10 millions. Mais les gens s'amusent à mettre ça dans leur poche. Quand ils volent, ils ne sont pas malades. Hein? Ils ne demandent, il n'y a pas de liberté provisoire quand ils volent. Mais quand on les arrête, j'ai comme l'impression qu'on fait semblant de les arrêter, on les amène à Makala et ils fabriquent des maladies qui n'existaient pas. Moi, j'ai vu quelqu'un ici, vous permettez que je cite son nom. Il y a le général Edi Kapenz qui est resté pendant 20 ans en prison sans demander que je suis malade, sortez-moi, ceci, cela. Mais tous ces voleurs-là qui passent par là, et après, la justice les lave, ils sont partis, c'est faire soigner, et ils sont partis. Merci. Mais si on avait une justice qui pouvait arrêter ces gens, vraiment, commencer d'abord à leur ravir tout ce qu'ils ont comme bien matériel. C'est comme on a fait à Nanga. On a dit Nanga, tous ces biens, on prend. L'État récupère ça. On commence par aller arracher. Mobutu l'a fait dans ces pays. Ah, mais on est où là? On est fou ou quoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Mais regardez comment nous gérons ces pays. Des inconscients, nous tous, nous sommes des inconscients. Je me permets de le dire parce que c'est révoltant. Il faut que la justice se lève et on commence à arrêter ces gens. On les juge publiquement. Pas question de ceci, cela. S'ils veulent mourir en prison, ils sont morts à cause de leur vol. Parce qu'ils sont des voleurs. Et c'est révoltant comme ça. J'ai dit bravo à ces jeunes gens-là. Parce qu'on ne peut pas rester toujours comme ça là. Vous nous prenez comme si nous étions des cons. En tout cas, non. Il faut que les gens commencent à se réveiller comme ces jeunes gens de Moanda. Et je salue leur action. Je salue aussi notre maître qui a proposé ce sujet pour que nous trouvions l'occasion de dénoncer des pareils comportements. Ce n'est pas digne de nous. Si nos parents avaient fait ça, nous n'aurons pas ce Congo ici. C'est regrettable pour des gens là, qui sont là, qui disent qu'on leur fait confiance, on les place pour occuper un poste de responsabilité. Voilà ce qui rentre à la République.
Merci. Merci, Georges Bergueza. On va finir cette émission avec vous. Du Mexique, d'où vous intervenez, quel est le regard que vous avez par rapport à ces phénomènes de détournement des fonds publics en RDC?
Les détournements de fonds, je crois que ce n'est pas nouveau au Congo. C'est malheureusement une habitude qui date depuis plusieurs décennies. Mais je trouve très positif que la société civile interpelle les autorités en leur demandant où est passé l'argent de l'État, où est passé l'argent qui nous était destiné. Ça, je trouve ça très bien. C'est peut-être la meilleure méthode pour lutter justement contre ce phénomène de détournement de fonds, c'est que la société civile soit mobilisée, etc. Sinon, au-delà de ce problème, je m'étonne qu'une ville comme Moanda ne soit pas électrifiée ici maintenant au 21e siècle, alors qu'elle se trouve à moins de 200 km du grand barrage d'Inga. C'est quelque chose qui m'échappe.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Maître Annie Massengou, Monsieur Georges Belguezin et Monsieur Monif Bonso. Merci aussi à Willem Lungamba et à Dets Vita qui étaient à la technique avec la participation de Christian Lomombe et Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision des PDF Pelamondo. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Ayant Droit de Outamaï dans l'orchestre Ok Jazz Outamaï. On rappelle, il a totalisé 75 ans d'âge les 3 août derniers. Et on se retrouve le samedi prochain.
Oh mama, banyama. Yo soy amable, 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 yo soy amable